On va essayer. Non, c'est pas beau déjà de dire on va essayer. Nous allons rendre possible ce qui nous paraît impossible. On va commencer par ça. Et je vous ai choisi cette petite image qui vient barrer, qui vient gommer, qui vient corriger l'impossible en possible. Pourquoi ? Parce que souvent nous pensons et nous prenons ce verset quand Jésus dit « Tout est possible à celui qui croit » ou « Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit ». Lorsqu'on voit ce verset, on pense souvent que nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Et ça, j'espère que vous le croyez. Mais souvent, nous croyons que nous n'avons besoin que de l'intervention de Dieu seul. Et nous pensons souvent que ce qui rend possible, c'est Dieu seul. Alors que nous allons voir que ce qui va nous rendre capable de faire ce qui nous paraît impossible, eh bien, Dieu veut qu'on le fasse avec lui. Et ça, c'est tout à fait différent. Parce que quand je comprends que Dieu veut rendre possible ce qui est impossible avec moi, le sens de mes prières va changer, la puissance de mes prières vont changer. Parce que lorsque je crois que Dieu rend possible les choses, je dis « Seigneur, fais ça, s'il te plaît. Seigneur, fais ça, s'il te plaît. Fais ça, Seigneur, s'il te plaît. » Ok ? Tandis que lorsque je crois et que je suis sûr que Dieu veut rendre les choses impossibles possibles avec moi, là, je commence à entrer dans une démarche de foi qui est tout autre. Là, je commence à pu dire « Dieu fait ça, s'il te plaît. » Là, c'est moi qui vais, qui dis au nom de Jésus que, ben, par exemple, au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui a vu sa vie tout arrachée. Je dis « Au nom de Jésus, maintenant plante et récolte les fruits de ce que tu as semé. » Est-ce que vous comprenez ça ? Ça ne nous fait pas de nous Dieu, mais ça fait de nous des hommes et des femmes participant à l'œuvre de Dieu. Là, on va essayer de rendre possible ce qui nous paraît impossible. OK ? Alors, si vous êtes venu ce matin chercher la possibilité de gagner au loto, c'est pas là. Hein, c'est, ou de devenir riche, c'est pas forcément un séminaire sur... comment réussir sa vie, etc. Non. C'est juste, on va essayer de regarder au regard de la parole de Dieu ce que c'est que de devenir quelqu'un qui va rendre les choses possibles. Je voudrais qu'on prenne cette histoire. Vous savez, si l'histoire, on va peut-être, bon, je vais voir, non, je vous la raconte. Parce que je sais que vous êtes fainéants le dimanche matin. Ils n'ont pas envie de lire, donc je vais lire pour eux. Je vais leur raconter la petite histoire. Un jour, Jésus arrive, et puis il y a un homme qui s'approche de lui et qui lui dit « Tiens, je t'amène mon fils parce qu'il est sourd et muet. » Et puis, il ajoute cet homme « Tes disciples n'ont pas su le guérir, n'ont pas su le délivrer, le guérir. » D'abord, la première chose que Jésus fait, il tacle ses disciples, si je puis dire. Bande d'incrédules, qui leur dit, race d'incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous, jusqu'à quand vous supporterai-je, lui dit. C'est-à-dire qu'il, clairement, entre nous, pour être disciple de Jésus, avec Jésus, il fallait mettre de côté un peu son amour propre, hein, si je puis dire. Jésus n'hésitait pas à dire les choses quand il fallait les dire. Et Jésus lui dit, bande d'incrédules, quoi. Hein. Et puis, il se met un peu en colère, il dit « Amenez-le-moi ». Donc, ils amènent le fils. Et puis, dès que le fils voit Jésus, il commence à avoir des réactions. Il est agité avec violence, il tombe par terre, il se roule en écumant. Je dirais que là, moi, je dirais, humainement parlant, il fait une crise d'épilepsie. Mais là, visiblement, c'est pas ça. Jésus demande au père « Mais ça fait combien de temps qu'il a ça ?» Donc, vous imaginez cet homme qui amène son fils. Je ne sais pas quel âge il a le fils, mais il n'est pas nouveau-né. Il a quelques années devant lui, parce qu'il a vécu des expériences difficiles. Il a vu son fils plusieurs fois être jeté dans le feu par cet esprit impur. Il a vu, par ce démon, il a vu à plusieurs reprises cet esprit impur pousser ce fils dans l'eau pour qu'il se noie. Vous voyez que l'esprit impur, le démon, voulait vraiment détruire cet enfant. Et je me mets à la place de cet homme qui a tout essayé, sans doute, qui a essayé plein de choses. Il a essayé la méditation, il a essayé, je ne sais pas ce qu'il a essayé. Vous savez, dans notre monde aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent plein de choses pour que ça aille mieux. Moi, je suis désolé, mais si vous voulez que ça aille mieux, allez voir Jésus. Hein. Et là, que fait-il ? Il dit, c'est impossible. En plus, imaginez la réputation des disciples qui avaient été envoyés pour chasser les démons, pour guérir les malades, etc., etc., qui n'ont rien pu faire. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Imaginez le cœur de ce père à ce moment-là. Il lui reste une seule solution, c'est d'aller voir Jésus. Et il amène son fils face à Jésus. Et à ce moment-là, il se dit bien dans son cœur, « Waouh, ça me paraît tellement impossible que mon fils soit délivré. Jusqu'à quand vais-je supporter la souffrance de mon fils ? Jusqu'à quand vais-je supporter cette vie misérable ?» Et là, Jésus va lui dire, et cet homme lui dit, ben, si tu peux faire quelque chose, quoi. Vous voyez, en gros, il dit, allez, je te le remets, mais on ne sait jamais si tu pourrais faire quelque chose, Jésus. Mais Jésus lui dit, mais si je peux, mais il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Et Jésus n'adresse pas ce message uniquement à cet homme. Il adresse ce message. Et c'est pas pour lui. Jésus ne fait pas de l'auto-suggestion en disant « il faut que je croie, il faut que je croie, il faut que je croie ». Il annonce un message puissant à toute personne qui s'approche de Jésus et qui croit que Dieu peut faire les choses à travers lui. Vous allez voir pourquoi. Tout est possible à celui qui croit. Il donne une parole de foi forte, puissante, que malheureusement, nous ne prenons pas toujours pour nous. On va le voir pourquoi. Aussitôt le Père, il s'écrie, il voit bien, il dit, je crois, mais s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité. Tu comprends, Jésus ? Ça fait des années que je trime. Ça fait des années que je vois mon fils malade. Ça fait des années que je vois mon fils se jeter dans l'eau. Je ne dors plus jour et nuit parce que je suis tout le temps en train de le surveiller. Je n'en peux plus, Jésus. Mais si, je crois. Mais est-ce que tu comprends aussi que ma situation m'amène à une certaine incrédulité? Et qui d'entre nous, face à la puissance de Jésus, n'a pas eu des sentiments d'incrédulité par rapport à ce qu'il a vécu? Alors le Père s'écrie, « Viens au secours de mon incrédulité, Jésus. » Mais Jésus lui répond, il lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. » Ça fait combien ? 11, 16 ? Enfin bref, 11. « Et n'y rentre plus. » Il sortit, non mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce ne sont pas les longues prières qui amènent la délivrance, qui font bouger les choses. C'est la foi que tu poses sur les mots que tu dis qui amène les choses. Et il sortit en poussant des cris. Donc le démon sort et en l'agitant avec une grande violence au tel point qu'on pense que l'enfant est mort. Mais Jésus s'approche de lui. Il le prend par la main, il le lève, il l'aide à se lever, il se tient debout. Quelle belle histoire ! Comme j'aimerais en vivre, dit comme ça, non ? Tout est possible à celui qui croit. Alors, comment rendre possible ce qui nous paraît impossible ? Là, j'ai pris un exemple tout simple d'une image qui est celle-ci. On voit bien, apparemment, ce sont deux petits-enfants. Je m'imagine bien que mes petits-enfants jouent avec moi, là. Et puis, ils pèsent, allez, 30 kilos tout mouillés, comme on dit dans le Nord. Ils sont épais comme des sprats, comme on dit dans le Nord. Ils sont pas grands. Ils pèsent sans doute, allez, trois fois moins que le papy qui est en train de tirer. Et pourtant, regardez la foi de ces enfants. Regardez comment ils s'acharnent à vouloir renverser leur papy. Ils ont la foi pour renverser papy. Et je suis sûr que papy va lâcher la corde ou il va se laisser renverser par amour pour eux. Comment rendre possible ce qui nous paraît impossible ? Parce que souvent, nous sommes comme ces petits-enfants. Nous sentons tellement impuissants face aux circonstances, non ? Il y a des situations tellement graves, tellement difficiles que nous vivons, que nous nous sentons tellement impuissants, voire nous nous sentons comme ces petits-enfants, incapables de faire bouger papy devant. Et je pense qu'on doit défier l'impossible. Ouais. Et je crois que le message que je veux vous donner ce matin, je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé clairement en début de semaine. Il vous dit, c'est le temps de défier l'impossible. Alors je sais, je prends beaucoup de risques à vous dire ça, parce que si ça ne marche pas, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais on doit se contenter de prononcer, de proclamer ce que Dieu a dit et d'entrer dans ce que Dieu a dit. Et le défi, c'est une action de provoquer quelqu'un en combat singulier. C'est le refus de s'incliner devant l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que quand tu te mets à défier l'impossible, c'est-à-dire que tu refuses la défaite. Tu refuses le désespoir. Tu refuses ce qui te paraît impossible. Tu dis, ok, c'est impossible, mais je crois que c'est possible avec Dieu. Et quand tu défies, tu provoques. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce matin pour provoquer l'impossible ? On va le voir après. On peut défier la gravité. Il y en a qui défient la gravité, hein. Il y en a qui défient les montagnes. Vous avez vu ces hommes-là qui jouent, qui sautent depuis et qui sont des hommes oiseaux. J'aime beaucoup regarder, je ne voudrais pas être à leur place. Mais ils défient les montagnes, ils défient la gravité. Il y en a qui défient le Mont Ventoux en vélo. Petit message pour Geoffrey. Il y en a qui défient les vagues. Il y en a qui défient les océans. J'ai vu l'autre fois une image en Californie d'une vague énorme et les surfeurs... Enfin, il défiait vraiment les éléments. On peut défier une équipe, on peut défier une entité adverse, on peut défier les lois, on peut défier Dieu, parfois, lui-même. Mais nous sommes, nous, appelés à défier l'impossible, à rendre possible ce qui est impossible, ce qui nous paraît impossible. Alors, on va voir comment défier l'impossible. Trois points. Ce n'est pas compliqué à retenir. Hein. C'est moins qu'à l'école. Il y a trois lois, si je puis dire. Trois lois dans le possible. La première, c'est de regarder dans l'invisible. On va voir ce que ça veut dire. Le deuxième point, c'est faire ce que nous n'avons pas encore fait. Oser faire ce que nous n'avons pas encore fait. Troisième point, c'est effacer les mensonges de notre mémoire. On y va ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ok ? Allez, normalement, on n'en a pas pour longtemps, mais regardez dans l'invisible. Je pense que Dieu veut nous révéler ce qui nous est encore caché. Pourquoi des choses nous sont-elles encore cachées ? Parce que nous avons tendance à regarder dans la réalité de notre monde. Quand tu regardes une situation, tu regardes toujours dans la réalité de ce que tu vois physiquement. C'est pas vrai ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, et d'ailleurs Matthieu le disait la semaine dernière, pour prier, il faut avoir la tête, il disait de regarder dans le ciel, Matthieu, c'est ce qu'il nous disait, enfin pour ceux qui étaient là, j'espère que vous avez retenu ça. Et regardez, il faisait, et ça m'a beaucoup interpellé quand il a dit ça, Daniel découvre la prophétie de Jérémie et il reçoit une révélation nouvelle qui va le pousser dans sa vie de prière, à déclarer des choses, à enclencher des choses dans la prière. Mon frère, ma sœur, si tu veux regarder dans la réalité de Dieu, commence par méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Alors Geoffrey, dans deux semaines, il va prendre ma place parce qu'il va enseigner, il va apporter un message pour nous encourager à méditer la parole de Dieu. Il a un témoignage à raconter et il faut absolument que nous puissions, un, prier, deux, méditer la parole. Comment vais-je, moi, apprendre à regarder dans la réalité du ciel si je ne regarde que la réalité de la terre ? face aux circonstances. Je peux voir mes circonstances, voir mes difficultés, voir ce que je vis de difficile. Si je reste devant ces difficultés, je ne verrai pas la réalité du ciel. Et Dieu nous appelle à, si je puis dire, avoir, pas jouer les gens qui ne voient pas les réalités de la terre, hein, attention, mais je dois voir la réalité de la terre, mais je dois voir la réalité du ciel. Et beaucoup de chrétiens sont découragés. Beaucoup de chrétiens pensent que leur situation ne bougera pas parce qu'ils ne regardent que la réalité de la terre. Lorsque les disciples sont envoyés par Jésus pour guérir les malades et chasser les démons, ils reviennent, ils manifestent leur joie. Moi, j'aurais été à leur place, j'aurais fait la même chose. J'aurais couru sur Jésus et dit, « Jésus, même les démons me sont soumis. » Et regardez ce que Jésus dit. Ça, c'est leur réalité. Ils voient une réalité, ils prient, les démons sont chassés. Ils sont soumis aux disciples. Et regardez ce que Jésus, il a une autre réalité. Jésus leur dit, « Et moi, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » C'est-à-dire que ce que eux-mêmes peuvent représenter comme la réalité du ciel, « Oui, les démons nous sont soumis. » Jésus est en train de le dire, « Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de descendre le royaume de Satan et de le jeter à terre. » Est-ce que vous comprenez ça? Parfois, tu peux vivre des expériences spirituellement sur cette terre et Dieu veut t'amener à comprendre que ce que tu fais sur la terre a une, si je puis dire, une autorité, une influence sur le ciel. La Bible et la révélation prophétique, je crois que Dieu veut amener la révélation dans la parole de Dieu et par la révélation prophétique dans nos vies. Il veut nous amener à regarder dans l'invisible et non dans notre réalité uniquement. Bien sûr, il faut regarder, il ne faut pas être un inconscient. On a tous des difficultés, on a tous des combats, on a tous des épreuves. Mais je pense que Dieu veut corriger les choses en disant « Oui, mais moi, je te dis ça. » Parce que quand tu ne regardes que ton expérience négative, tu t'enfermes dans ton expérience négative et tu ôtes la possibilité de Dieu d'agir. Ça va ? On regarde maintenant dans l'invisible. Moi, je prie pour que l'onction prophétique descende sur cette église parce qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui prophétisent et qui amènent une autre parole que ce que nous entendons. Je prie vraiment pour ça. Et je demande, et c'est ma prière maintenant, Seigneur, envoie ton onction sur l'Église. Que tes fils et tes filles prophétisent. Afin que lorsque une personne est découragée parce qu'elle a la difficulté en regardant sa réalité, que tu puisses apporter une parole tout autre, une parole de foi, une parole d'espérance, une parole d'amour pour l'édifier, exhorter, consoler. Et je prie vraiment que, Seigneur, dans cette église, nous soyons des disciples qui regardions dans ta parole de vérité. Ensuite, le deuxième point, donc on regarde dans la réalité du ciel. Maintenant, on va regarder, on va faire ce que nous n'avons pas encore fait. Relever des défis et rendre possible ce qui est impossible nous amènera forcément à sortir de ce que nous avons déjà fait. Et Dieu envoie toujours sa puissance, pas dans ce que tu fais tous les jours. Moi, je n'ai pas besoin de la puissance de Dieu pour faire mon café le matin. J'ai juste besoin d'un doigt d'appuyer dessus et de mettre la tasse en dessous parce que ça m'arrive. Parce que des fois, avec 30 minutes chrono, petite confidence, vous penserez à moi le matin, je me lève. Vous êtes en train de parler, commencez à prier. Il me faut mon petit café, moi, le matin, hein, en priant. Et j'appuie sur le café, et puis zut, j'ai oublié de mettre la tasse en dessous. On recommence. Voilà. Dieu amène toujours la puissance quand tu fais le choix de faire ce que tu n'as pas encore fait. Et je prends l'habitude du paralytique. Vous savez qu'un jour, on amène un paralytique sur un lit. Hein ? Ils percent le toit, ils enlèvent le toit, ils démontent tout. Hein. Ses copains, ils avaient vraiment envie qu'il soit guéri. Ils l'amènent face à Jésus. Et puis, or, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, toi, paralytique, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il fait ? D'ailleurs, vous remarquerez que Jésus ne prie pas. Il ne dit pas, Père, s'il te plaît, guéris-le. Non. Et regardez ce qu'il fait. Il amène ce paralytique à changer le cours des choses, de ne plus faire comme ce qu'il faisait avant. Regardez, il est en train de lui dire, tous les jours tu étais allongé, maintenant je te l'ordonne, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. Et au moment où il dit ça, au moment où cet homme a la foi pour le faire, la puissance vient et que se passe-t-il ? Il se lève, il prend son lit, il s'en va. Dieu n'envoie pas sa puissance pour faire ce que tu fais d'habitude. Mais dès lors que tu vas commencer à faire ce que tu ne faisais pas, Dieu va envoyer sa puissance parce qu'il aime la foi. Il aime un homme, une femme, un enfant de Dieu qui commence à vouloir plus, à vouloir changer, sortir de ses petites habitudes. Et vous savez, nous sommes appelés à être des créateurs. Nous sommes appelés, alors nous ne sommes pas le créateur, je sais parce que s'il y a des théologiens, on va dire il y a une hérésie. Mais quand Dieu est avec quelqu'un, et quand cette personne marche avec lui, il veut encourager cette personne à créer des choses. Regardez Noé, il a créé l'arche. Il a fait l'arche, bien sûr, la dimension divine, il est allé rechercher dans l'invisible. Dieu lui a parlé, il a concrétisé sur la terre quelque chose. Conclusion de cette affaire, l'humanité est sauvée. Et lui et sa famille sont sauvés. Regardez comment ça s'est passé avec le tabernacle. Moïse reçoit l'image du tabernacle. Et que fait-il ? Il descend de la montagne, non pas à cheval, mais avec les pierres sous le bras. Et regardez, Dieu dit, je remplis de l'esprit Betsalel et Ololiab, afin qu'ils fassent le tabernacle que tu as vu sur la montagne. La puissance de Dieu est venue sur Betsalel, parce que Betsalel a regardé dans le ciel, il a voulu matérialiser le ciel sur la terre. Et Betsalel, avant, il faisait des briques. Betsalel, avant, était un esclave. Mais il a choisi de prendre ce que Dieu disait pour le mettre sur la terre. Et là, la puissance de Dieu est venue sur cet homme. Et la troisième chose, donc on a regardé dans l'invisible, on a fait ce que nous n'avions pas encore fait. Maintenant, on va effacer les mensonges de notre mémoire. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs. Mais bon, je perds mon pantalon. Saül dit à David... Regardez, je reprends l'exemple de David et Goliath. Vous vous souvenez, la semaine dernière, il y avait cette image que j'avais reçue le dimanche matin, lors de 30 minutes chrono, où le Seigneur montrait cet épisode biblique pour nous montrer que nous devions utiliser la parole de Dieu et un acte de foi d'une personne pouvait délivrer tout un pays. Le petit David, grâce à lui... Les Philistins sont partis, ils se sont sauvés et le peuple, l'armée de Dieu, l'armée de l'Éternel a vu sa foi revivre et ils les ont mis en déroute. Qu'est-ce que j'aime ça, un petit bonhomme de rien du tout. Saül dit à David, regardez, pourtant David il veut aller combattre lui. Hein. Alors il est décidé ce garçon, hein. il veut vraiment y aller. Et puis Saül lui dit, son roi lui dit, tu ne peux pas aller combattre contre lui parce que tu es un enfant. Et je crois qu'il a, allez, il a à peine 16-17 ans à cette époque-là. Alors que ce Philistin, lui, est un guerrier depuis sa plus tendre enfance. Il est formé pour ça. Saül, il regarde à la réalité. Il voit ce petit père arriver là, ce petit blondinet roux, je ne sais pas. Et il lui dit, toi, aller combattre contre lui. Mais... c'est pas la peine que t'y ailles, mon gars. T'es un enfant. Tu n'y arriveras pas. Vous imaginez le mensonge qui arrive dans le cœur de David. Un homme de foi un petit homme de foi qui a une foi comme un grain de sénévé, qui est horripilé, qui est énervé, qui est agacé parce que cet homme harangue là et il insulte l'armée de l'Éternel depuis 40 jours. Et David, il n'en peut plus. Il dit, moi, je vais y aller. Et le roi lui dit, t'as vu, tu n'y arriveras pas, garçon. Et combien de fois nous avons entendu ça? Combien de fois avons-nous attendu, oh, t'es pas assez comme ceci, t'es pas assez comme cela, t'es trop ceci, t'es trop cela. C'est pas vrai? Et parfois même, ça vient de nos proches. Et parfois même, ça vient même du corps de Christ. En fait, Saül est en train de proclamer un mensonge spirituel sur David. Et Goliath, lui, fait la même chose. Aujourd'hui, mon petit gars, je t'écrase. Je vais même te donner à manger aux oiseaux et aux bêtes des champs. Encore un mensonge, encore une irréalité spirituelle. Et David, lui, que fait-il? Il efface le mensonge de sa mémoire. Mon frère, ma sœur, si tu veux rentrer dans le possible de Dieu, si tu veux défier l'impossible, il va falloir prendre le temps de faire taire les mensonges de ta mémoire et de les effacer. Contrôle, alt, supprime. On efface de notre disque dur. À Goliath, il dit, à Saül, d'abord il va répondre, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Vous voyez, face au mensonge, encore la capacité que vous avez, en effaçant le mensonge, de proclamer les promesses de Dieu sur votre vie. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, mes frères et mes sœurs, je peux vous le dire. Que ce qui m'a remis souvent sur les rails avec Dieu et dans le service, c'est quand j'ai ressorti les prophéties que Dieu m'avait données par la bouche d'hommes et de femmes et que j'ai reproclamé dans la prière ces choses. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est lorsque, étant désespéré, découragé au fond du trou, j'ouvrais la Bible, je lisais la Bible, je méditais la Bible et là, une parole, un verset de la Bible venait sur mon cœur et me redonner la foi pour me relever. À Goliath, il va répondre, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel. » Oui, on marche au nom de l'Éternel. Mais pour marcher au nom de l'Éternel, tu es obligé d'effacer tes mensonges. Il y a beaucoup de gens qui sont schizophrènes. Vous me pardonnerez l'expression. Quand je dis schizophrène, vous n'êtes pas enfermé. Hein. Je dis, ils sont souvent comme ça. Ils disent, j'avance au nom de l'Éternel, mais le problème, c'est que dans leur coin de disque dur, il y a toujours ce virus qui est là et qui empoisonne. Et vous avez des personnes, et je crois que là, le Seigneur me conduit à dire des choses claires, il y a des personnes qui s'engagent et qui n'y arrivent plus. Vous savez pourquoi? Parce que dans ton disque dur, il y a toujours ce virus qui est là. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas digne, tu ne peux pas le faire, tu n'as pas été appelé, je vais t'écraser, etc., etc., etc. Mon frère, ma sœur, si tu veux commencer à terminer ce que Dieu t'a demandé de faire, efface le mensonge. Beaucoup de personnes commencent les choses et ne les terminent pas. Noé est allé au bout de l'arche, il a achevé. Le tabernacle a été achevé, d'accord? Et à chaque fois qu'un homme et une femme, ou une femme de Dieu, prend la parole de Dieu, se saisit de la parole de Dieu et va jusqu'au bout des choses, en effaçant les mensonges de sa mémoire, il y arrive. Dieu... David a su effacer ses propres mensonges pour défier l'impossible. Il a écouté la voix du bon berger. Il a ordonné à toutes les voix contraires de se taire en proclamant prophétiquement la volonté de Dieu. Qui avons-nous écouté? Qui écoutons-nous aujourd'hui? Allons-nous continuer d'écouter l'ennemi? Allons-nous continuer d'écouter l'incrédulité? Allons-nous continuer d'écouter ce qui est contraire à la voix de Dieu ? Ou allons-nous enfin écouter la voix du bon berger ? La voix du bon berger, elle te dit, marche maintenant avec moi. Sois mon créateur, si je peux dire. Sois avec moi créatrice. Fais des choses nouvelles. Engage-toi dans ce que moi j'ai prévu pour toi. Que t'ai-je dit il y a 30 ans, 10 ans, 15 ans en arrière ? Ce matin, j'ai reçu ce passage de Jérémie chapitre 6, verset 16, et où Dieu interpelle le prophète. Le rôle du prophète, c'est pas de dire uniquement « vous êtes des bons à rien, mauvais à tout », c'est de ramener, de faire prendre conscience au peuple qu'il a besoin de revenir sur ses voies. Quel était ton appel ? Dieu renie-t-il l'appel en toi ? Quel était ce que Dieu t'a dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a encore peut-être 6 mois, 1 an, 10 ans, peu importe. Reconsidère tes voies anciennes et regarde où tu en es aujourd'hui et corrige peut-être. Ou peut-être que tu as pris la sortie d'autoroute, remets-toi sur le chemin. Réengage-toi avec moi. Rends possible ce qui est impossible à tes yeux, afin que ma gloire se manifeste. Voilà, j'ai fini, je crois. Alors, quel défi allons-nous relever ? Défions l'impossible, regardons dans l'invisible, s'il vous plaît. Faisons ce que nous n'avons pas encore fait. Et troisième chose, effaçons les mensonges de notre mémoire. Père, nous prions. Et je vous invite à peut-être à vous lever, à si vous avez des défis à relever aujourd'hui, qui a envie de relever des défis aujourd'hui et qui a des défis à relever surtout ? Allez, on lève les mains. Je pense qu'il y en a plusieurs qui en ont. Ouais. Eh bien, moi, j'en ai plein. Je n'ai pas assez de bras pour mes défis. J'ai plein de défis à relever, Seigneur. Et je veux regarder, Seigneur, dans l'invisible. Je veux enfin regarder comme toi, tu regardes. Regardez comme toi tu regardes. Seigneur, nous voulons faire et nous engager dans un pas de foi. Peut-être qu'aujourd'hui on priait un petit peu par rapport à ça, par rapport à ce défi à relever. Peut-être qu'on a mis des petites choses en place. C'est sans doute que tu veux, Seigneur, aujourd'hui qu'on mette plus en plus de place des choses dans notre vie pour relever ces défis. Et enfin, Seigneur, à partir de ce jour, nous prenons la décision ensemble d'effacer de notre mémoire tout ce que nous avons entendu et qui était contraire à ce que toi, tu nous dis. Nous effaçons de notre mémoire, Seigneur. Nous effaçons les choses et nous te remercions au nom de Jésus. Père, je te remets mes frères et mes sœurs qui doivent relever des défis. D'abord, je crois qu'on doit tous en relever dans notre vie. Mais parfois, il y a des défis, des choses qui nous paraissent tellement impossibles. Impossibles. Incroyables. Mais tu l'as dit à ce Père. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que rien n'est impossible à toi. Mais nous croyons que nous pouvons nous accomplir. Et c'est la leçon que tu laisses à tes disciples, accomplir avec toi, par toi, pour toi, de faire de nous des hommes et des femmes qui créent des choses nouvelles, qui libèrent des choses nouvelles dans les vies des autres, dans notre propre vie. Nous effaçons le mensonge ce matin, au nom de Jésus. Nous effaçons la mémoire de notre disque dur ce matin, en ton nom. Et nous élevons les mains pour t'adorer, Seigneur. Nous élevons notre voix pour te glorifier. Nous te remercions pour ce que tu veux faire avec nous. Tu nous fais participants. Alléluia.